RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Après avoir parlé des JO, on va s'intéresser à ce qu'il va se passer quelques semaines, quelques jours après, du 28 août au 8 septembre, les Jeux paralympiques. 12 jours pendant lesquels le monde entier célébrera les performances d'athlètes confrontés au handicap. C'est l'occasion ce matin dans Je pense donc j'agis de revenir déjà sur l'histoire du paralympisme, à quel moment c'est devenu une vraie compétition, tout comme on en entend parler avec les Jeux olympiques. On va en discuter avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages, même si vous êtes discret ce matin. Si vous avez l'habitude de suivre les Jeux olympiques, en faites-vous autant pour les Jeux paralympiques? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous allez regarder ceux qui vont se dérouler fin août? Et puis, si vous êtes confronté au handicap, si vous êtes en situation de handicap, qu'est-ce que représentent ces Jeux paralympiques pour vous? 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nous à l'antenne par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et je vous présente nos trois invités avec nous jusqu'à 11h. Bonjour Sylvain Ferrez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de paralympisme au laboratoire santé, éducation et situation de handicap à l'Université de Montpellier. Et vous avez coécrit un article dans la revue Projet intitulé « Olympisme et paralympisme, jeu d'influence mutuelle ». Bonjour Gilles Lecoq.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et vous intervenez également dans ce dossier de la revue Projet. Vous êtes professeur de psychologie, président de la Société francophone de philosophie du sport et vice-président du comité français Pierre de Coubertin. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Et notre troisième invité, c'est vous, Benoît Hervieux-Léger. Rebonjour.
Rebonjour.
Toujours chef de rubrique à la revue Projet. Vous êtes journaliste et vous avez coordonné donc l'année dernière ce dossier sur les Jeux Olympiques qui nous permet ce matin de réaliser ces 2 heures d'émission. Merci à l'équipe de Dijon qui vous accueille en studio. Benoît, alors c'est toujours la question traditionnelle hein, quand vous intervenez dans cette émission. Pourquoi ce focus sur les Jeux paralympiques et leur histoire dans la revue Projet?
Bah écoutez, ça nous a paru important parce que d'abord l'édition 2024 des Jeux, d'ailleurs on dit maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle appellation qui est valorisée par le comité d'organisation lui-même, c'est-à-dire que on dit plus Jeux Olympiques seulement, on dit Jeux Olympiques et Paralympiques, donc JOP. Voilà. Donc, ou alors on dit les Jeux de façon un peu comme un terme générique, mais qui ouais. englobe bien les deux manifestations comme n'en formant qu'une seule. D'autre part, comme je le soulignais à l'heure précédente, c'est c'est le même comité d'organisation pour la partie olympique et la partie paralympique. Donc, ça entérine le fait que c'est le même événement. Et puis, je voudrais aussi souligner, et ça fait un petit peu le lien avec la partie précédente de l'émission, c'est qu'en termes d'équipement, justement, à Bobigny, donc en Seine-Saint-Denis, qui ouais. est la préfecture de Seine-Saint-Denis, est mise en place dans le cadre des JO, donc un équipement inclusif qui s'appelle le Prisme, en fait, bon, qui est effectivement une salle multisport équipée et spécialement dédiée, effectivement, au paralympisme. Donc, il y a un effort, effectivement, qui a été fait de ce côté-là.
C'est un peu un hub sportif, hein, ce Prisme.
C'est un hub sportif, ouais. absolument. Ouais. Voilà.
Eh ben, écoutez, on a plein de choses à dire dans cette émission. Sylvain Ferrez, jeu d'influence mutuelle, en parlant de l'olympisme et du paralympisme. Pourquoi un jeu d'influence, d'après vous? C'est ce que vous avez titré, notamment.
Un jeu d'influence, parce qu'on pourrait dire que pendant toute une première période, les Jeux, qui sont pas les Jeux paralympiques encore, qui sont les Jeux de Stockmanville, sont une mobilisation de public en fait exclu de l'olympisme qui cherche à y rentrer et donc qui cherche à influencer les Jeux olympiques par leur volonté de présence. J'allais dire que des minorités revendiquent l'accès à l'olympisme, ça n'est pas exceptionnel. Ça a été le cas des femmes dans un premier temps, et puis ça a été le cas des personnes handicapées, et puis on a comme ça des séquences, puisque les Jeux olympiques initialement se veulent universels, mais en fait ils ne concernent qu'une petite partie de gens, plutôt des hommes, plutôt des gens des pays occidentaux, et pas des colonies, etc., etc. Donc il y a tout un mouvement autour du XXe siècle, d'intégration de nouveaux publics à l'olympisme. Et donc, on a là un jeu d'influence, j'allais dire, qui va des minorités vers la majorité, les minorités revendiquant, j'allais dire, l'accès à cette vision du sport comme étant la norme, revendiquant d'une certaine manière la norme et la participation sociale à ces événements emblématiques. Et puis, jeu d'influence mutuelle, parce que à cette première période où on pourrait dire le modèle est le modèle olympique, et puis c'est les publics qui vont vers ce modèle-là, il y a une seconde période où, j'allais dire, il y a une forme de réciprocité qui se crée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les paralympiques sont reconnus, c'est à leur tour eux qui vont avoir une influence et qui vont transformer profondément le modèle olympique, et j'allais dire dans les dernières éditions, faire du paralympisme un modèle et de l'inclusion une valeur réintégrée, réappropriée par l'olympisme et qui prend une place de plus en plus centrale. Donc ce jeu d'influence mutuelle, on pourrait dire que dans le développement de l'histoire, il était un peu asymétrique et c'était un peu un jeu de une volonté de revendication de minorité d'accès à un modèle qui était un peu normé, un peu central sur les hommes, sur les personnes valides, etc. Et puis au fur et à mesure du temps et de cette intégration, eh ben, il va y avoir de la réciprocité, des échanges mutuels, des transformations, et on pourrait dire donc aujourd'hui que l'avenir de l'olympisme et la transformation de l'olympisme doit beaucoup à l'intégration du paralympisme et de ce qu'il apporte en termes d'image, en termes de valeur, en termes de vision de la diversité et de l'inclusion.
Gilles Lecoq, vous êtes, je rappelle, professeur de psychologie et président de la Société francophone de philosophie du sport. Que représente le paralympisme pour vous? Est-ce que le sport, ça devient une finalité ou finalement c'est une autre dimension qu'on est en train de chercher?
Alors je serais peut-être sur l'idée d'autres dimensions. En rappelant ce que Sylvain a dit précédemment, que l'olympisme existe toujours grâce à l'effet des minorités actives. Et effectivement, on peut considérer que le paralympisme donne du souffle à l'olympisme. En rappelant que même si on considère que JO et JP sont ensemble, il faut quand même reconnaître qu'au niveau international, ils vivent ensemble mais séparés. Donc l'idée d'ensemble est quand même peut-être à relativiser. Et puis, pour reprendre un petit peu une thématique qui avait été développée au Vatican au sommet Sport pour tous en septembre 2022, ce qui est fondamental, je pense, dans cette idée de paralympisme, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le sport pour tous, hein, qu'est-ce qui fait que l'inclusion est effectivement une inclusion vécue. Et avant de vous redonner la parole, peut-être de rappeler que dans notre jargon francophone, on peut aussi parler d'activité physique adaptée à chaque âge de la vie, hein, et qu'on peut faire des liens sur comment les activités sportives peuvent s'adapter aux besoins des personnes qui vivent des situations de handicap.
Benoît Hervieux-Léger, ce qu'on peut constater également en lisant cet article et puis de manière générale, c'est que ces Jeux paralympiques, on a quand même l'impression qu'ils sont bien installés dans nos sociétés actuellement. On parlera de Paris 2024 parce que là, il y a un vrai objectif de mettre encore plus en avant le paralympisme. Pourtant, ça a mis du temps quand même, Benoît, à s'intégrer.
Oui, ça a mis beaucoup de temps. Bon, déjà, ce qui est intéressant, et je rebondis un petit peu sur ce que disait Sylvain tout à l'heure par rapport au fait que bon, effectivement, il y a l'esprit olympique de Pierre de Coubertin, enfin la façon dont il concevait le fondateur donc des JO modernes. Bon, je veux dire, sa vision, effectivement, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des populations, on dirait aujourd'hui racisées, enfin bon, issues effectivement des colonies, etc., des populations noires, des populations asiatiques, etc. Bon, il y avait quand même une conception qui est pas effectivement celle qui serait valorisée aujourd'hui. Bon, les femmes sont faites pour porter les médailles, disait-il. Bon, de la même manière, je pense que dans l'esprit, il y avait une sorte de célébration du culte du corps athlétique, performant, normand, et qui était effectivement bien loin de l'idée d'un paralympisme. Voilà, donc effectivement, ça a mis du temps, c'est-à-dire qu'en fait, les premières manifestations, et Sylvain le rappelait tout à l'heure, oui. Bon, c'est effectivement les archers donc du tir à l'arc.
À Londres.
À Londres, donc devant l'hôpital de Stoke Mandeville en 1948. Donc ils sont d'ailleurs en plus un peu la deuxième phase des Jeux Olympiques, c'est-à-dire les Jeux de la reconstruction. Après la guerre, il faut pas oublier que bon, la Seconde Guerre mondiale a fait qu'il n'y a pas eu de JO en 1942. Ouais. Voilà, donc il y a eu, c'était aussi déjà une première relance des Jeux Olympiques à l'ère moderne.
Et c'était d'ailleurs un neurochirurgien, Sylvain Ferès, qui avait organisé cette compétition d'archers. Cet événement, ça a été majeur, ça a été un premier pas.
Bah, disons que c'est majeur au sens des structures, puisque Stoke Mandeville est la première structure à partir de laquelle vont s'empiler un certain nombre d'initiatives et de regroupements. Alors je dis c'est la structure historiquement autour de laquelle se regroupent les autres, mais en fait il y en a plein. Pour une raison simple, c'est que Ludwig Gutmann effectivement est un chirurgien qui travaille dans l'hôpital de Stoke Mandeville, qui accueille les blessés médulaires, les blessés de la colonne vertébrale. C'est un neurochirurgien d'ailleurs qui vient d'Allemagne, qui est d'origine juive, qui a fui l'Allemagne, qui fait sa carrière en Angleterre, qui a une cohorte de patients importante, puisque les blessés de la Royal Air Force sont évidemment très très nombreux pendant la Seconde Guerre mondiale, liés aux avions qui tombent, au fait de devoir s'éjecter en parachute, et qui bénéficie aussi du pont transatlantique et de l'arrivée de la pénicilline. Et donc Gutmann va inventer ce qu'on appelle la rééducation moderne, c'est-à-dire l'idée que les blessés médulaires, les blessés de la colonne vertébrale, peuvent survivre, peuvent être opérés, peuvent survivre, ont une chance de survie hors de l'hôpital, et donc doivent réapprendre à l'hôpital dans des temps de survie de plus en plus longs, oui. À se réadapter ou à se réhabiliter. Et donc, il va inventer ce qu'on appelle la rééducation aujourd'hui globale ou générale, qui va se diffuser après dans toute l'Europe et en France, dans les centres de rééducation fonctionnelle qu'on connaît. Et donc, évidemment, lui, il est centré, les premiers archers dont on parle, sur les paralysés, et les paralysés liés à des blessures de la colonne vertébrale. Et très longtemps, les Jeux de Stoke ne vont concerner que ce public-là. Et il va falloir, pour arriver au mouvement paralympique, finalement, que ce mouvement-là revendique l'accès à l'olympisme, que les autres types de déficiences qui sont réorganisés dans d'autres domaines, dans d'autres centres, puisque eux-mêmes ne sont pas forcément médicalisés de la même manière, les sourds, les déficients intellectuels, les amputés, tout ça, ça va durer une vingtaine ou une trentaine d'années, et tout ça va s'agréger d'une certaine manière et revendiquer auprès du mouvement olympique une existence et une chose extrêmement importante, en même temps une sortie du monde médical. Une sortie de la médicalisation, c'est-à-dire nous ne voulons pas être vus comme des gens qui reviennent dans la norme, mais nous voulons être vus comme des gens qui sont autrement capables et qui, si on leur propose des activités adaptées, peuvent faire des performances formidables avec les capacités qu'elles ont, évidemment, et pas avec les capacités qu'elles n'ont pas. Mais ceci est évidemment, du coup, une articulation entre les épreuves proposées, les capacités des gens. Et donc, si on veut mettre en scène des gens performants en dépit de leurs incapacités, il suffit de construire des épreuves dans lesquelles elles peuvent exprimer des capacités de très haut niveau.
Ça veut dire qu'il y a quand même eu une vraie étape, une première étape au début, Gilles Lecoq, et on vient d'en parler, où finalement, ces compétitions sportives, pour les archers, pour reprendre cet exemple, c'était plutôt un aspect médical plus que de visibilité. Gilles Lecoq.
Oui, tout.
Alors, vous pouvez discuter, tous les deux.
Oui. Par rapport à la remarque, déjà peut-être pointer que sur Paris, il y a un lieu qui peut être, on va dire, emblématique, si je peux utiliser ce terme, c'est l'Hôtel des Invalides, où il y a un club paralympique qui existe et qui nous rappelle que le paralympisme, c'est aussi quelque part gérer une psychologie des situations extrêmes que vivent les athlètes. Ça, c'était un premier point. Donc, pendant les Jeux paralympiques, on pourra parler de l'Hôtel des Invalides. Et puis ensuite, il y a une équation qui est fort intéressante à mettre en avant. Et on peut rappeler effectivement que le trajet qui est fait à travers les Jeux paralympiques, c'est comment un corps imparfait va devenir un corps excellent, et puis comment un corps dénié va devenir un corps reconnu. Alors, à travers les performances, mais je dirais en tant que psychologue, peut-être au-delà des performances qui sont réalisées, parce que bien évidemment, un athlète paralympique est bien plus qu'une personne qui ne réalise que des performances sportives.
Sylvain Ferès.
Non, ce que dit Gilles est important. Je réagis aussi sur un point que vous aviez dit tout à l'heure sur la valeur de l'inclusion.
Oui.
Évidemment qu'elle est devenue centrale dans le paralympisme, mais elle n'est pas acquise au niveau international. Hein. Si on fait un lien avec l'actualité, je me demande si les blessés des guerres actuelles qui ont fait le contingent des athlètes paralympiques, et notamment les blessés russes qu'on envoie au front, seront présents aux Paralympiques, à la fois pour des raisons politiques, parce que les Russes n'y seront pas, mais à la fois parce que je suis pas sûr que dans tous les pays l'importance qu'on apporte à l'inclusion, l'importance qu'on accorde à la vie, l'importance qu'on accorde aux gens qui ont des incapacités à leur capacité de performer soit égale et importante. Donc je veux dire, ce travail pour l'inclusion, il est acquis dans un certain nombre de pays et il est porté par le paralympisme, mais il pose un certain nombre de questions, y compris sur les participations internationales et sur l'importance qu'on accorde globalement aux gens qui sont pas dans la norme, qui ont pas les mêmes capacités et qui, dans nos sociétés actuelles telles qu'elles sont construites et telles que nos environnements sont faits, ont des difficultés d'accès à l'emploi, d'accès aux loisirs et d'accès à une visibilité reconnue de performance avec les capacités, j'allais dire, qu'ils ont à un moment donné, que ce soit en lien avec des guerres d'ailleurs ou avec des difficultés de développement, puisqu'il y a des handicaps de naissance. Et avec aussi, du côté du paralympisme, une diversité d'incapacités. On montre souvent des images, et ça c'est un biais, évidemment, soit des gens en fauteuil, soit des gens avec des lames et des amputés, beaucoup du handicap physique, mais il y a aussi des incapacités extrêmement invalidantes dans la vie de tous les jours, et y compris dans la performance, qui sont les incapacités sensorielles, les déficiences intellectuelles, et le paralympisme, j'allais dire, montre une diversité et une capacité à inventer des épreuves qui fait qu'aujourd'hui il est devenu pensable qu'on ait des athlètes de haut niveau, des champions paralympiques, y compris avec des handicaps intellectuels, ce qui était absolument impensable, je pense, il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années.
Benoît Hervé-Léger, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, alors déjà je voulais faire une petite rectification tout à l'heure, une petite erreur de date, c'est que si effectivement pendant la guerre, normalement les JO avant 1948, ils auraient dû avoir lieu en 1944 et non pas 42 comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, d'autre part, pour rebondir sur ce que disait Sylvain à l'instant, c'est vrai que il y a, alors c'est paradoxal parce qu'on voit en fait un processus de sortie, c'est-à-dire de le sportif, enfin celui qui va devenir le handisportif. Bon, souvent d'ailleurs vétéran, souvent, c'est-à-dire qui effectivement a payé le tribut de son propre corps à la guerre. Bon, va vouloir effectivement participer au jeu, donc avec toujours l'image du combattant, mais alors avec un processus où on essaie de se détacher effectivement de la tutelle médicale. C'est-à-dire que bon, on ne veut plus être seulement perçu comme des infirmes. Après, ce qui est intéressant, et on voit effectivement que ça s'est produit tard, mais très très tard, notamment par exemple, bon, dans les années 70, avec des gens qui étaient effectivement handicapés, mais qui n'étaient pas pour autant paralysés. D'ailleurs, on dit paralympique. En fait, je sais pas ce qu'en pensent les deux autres interlocuteurs, mais Sylvain et Gilles réagiront probablement, mais paralympique a quelque chose d'un petit peu réducteur, parce qu'effectivement, le handicap, ça peut être beaucoup de formes, beaucoup de choses. C'est aussi une affaire de perception. Et on voit très bien qu'effectivement, ceux qui, effectivement, n'avaient pas le tribut corporel, on va dire, des origines, ont mis longtemps, en fait, à être intégrés, que ce soit des gens qui sont malvoyants, que ce soit des gens qui ont effectivement un handicap mental, etc. Cette inclusion, au regard de l'histoire, elle est très, très, très tardive.
On pourrait appeler ça les jeux handilympismes, mais on va pas refaire l'histoire. On va continuer d'en parler dans un instant et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour réagir. Si vous avez l'habitude, vous, de suivre chez vous les Jeux Olympiques, est-ce que vous en faites autant pour les Jeux Paralympiques? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous touche également dans ces compétitions? Et si vous êtes confronté au handicap, qu'est-ce que ça représente également pour vous, ces jeux? 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Si je me regarde dans le miroir, suis-je fier de ce que je vois? Je ne parle pas de mon visage, ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi, sous ma poitrine là. Oh oui, c'est imparfait, mais ai-je le droit d'être fière? On ne se le dit jamais assez, parce qu'on attend des autres qu'ils nous disent qui l'on est. Mais les autres changent de voix, comme ils changent d'apôtre, de discours et de lois. seulement ce qu'on choisit de croire, qui l'on est, comme nos reflets, sont les seuls à nous voir. Est-ce qu'on peut dire, je suis fière? N'aie pas peur de faire des choix, car personne d'autre que toi ne sait ce que tu vois.
Bravo, c'était Barbara Pravi pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités jusqu'à 11h, Gilles Lecoq, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie, président de la Société francophone de philosophie du sport et vice-président du comité français Pierre de Coubertin. Avec nous également Benoît Hervieux-Léger, vous êtes chef de rubrique, journaliste à la revue Projet et c'est vous qui avez coordonné le dossier Jeux Olympiques plus vite, plus haut, plus fort qui date de juin 2023. Et enfin Sylvain Ferrez, sociologue et spécialiste des questions de paralympisme au laboratoire Santé, Éducation et Situation du Handicap à l'Université de Montpellier. Alors, on continue un peu de retracer ensemble l'histoire du paralympisme. On a évoqué tout à l'heure 1948 avec les archers paraplégiques qui se sont affrontés devant un hôpital. Si on arrive quelques années après, en 1960, Sylvain Ferrez, il y a eu l'organisation. Alors, ce sont vraiment les premiers Jeux d'été paralympique à Rome. Et là aussi, ça a été un vrai tournant dans l'histoire du paralympisme.
Oui, ça constitue un tournant. Alors, on les appelle pas paralympiques à l'époque, on les appelle para-olympiques, avec un tiret entre les deux. Et le para veut bien dire paralysé, puisqu'il n'y a à cette époque que des participants en fauteuil roulant. Par contre, effectivement, pour la première fois, grâce à une alliance entre Guttmann et un médecin qui s'appelle Di Maggio, qui est un médecin italien, il y a la volonté de solliciter la ville olympique et de faire, alors très longtemps, je crois que c'est 2 mois après les Jeux olympiques, sur le même site, les Jeux para-olympiques. Ce qui sera le cas de nouveau en 64 à Tokyo, mais qui ne pourra plus se faire à partir de 68 et jusqu'en 88. Donc pendant 20 ans, ce défi de faire ces Jeux qui sont encore pour les paralysés jusqu'en 76 uniquement sur la même ville que les Jeux Olympiques ne pourra pas se faire pour des raisons matérielles, hein, pour des questions d'accessibilité. Les villes, voilà, en 68 c'est Mexico qui pose déjà des problèmes d'accessibilité pour les valides en raison de la hauteur et du défi logistique, et donc les Jeux Paralympiques auront lieu à Tel Aviv, et puis voilà, ils ne pourront plus se faire sur le même lieu. Et en même temps, on va voir les revendications monter de plus en plus importantes d'autres types de déficiences que les paralysés, qui veulent, a fortiori lors de ces Jeux de Stockmanville qui sont délocalisés, en fait, parce que c'est ça le principe de Rome, c'est de délocaliser les Jeux qui avaient lieu à Stockmanville, hors de l'hôpital, et sur le jeu des Jeux Olympiques, qui vont revendiquer la participation à ces Jeux Paralympiques. Et il faudra attendre 76 pour que les amputés et les déficients visuels voient leur participation acceptée au prix de discussions multiples. Des discussions aussi intéressantes parce que c'est des discussions de règlement. de choix des épreuves et de création de ce qu'on appelle les classifications fonctionnelles, qui est un point sur lequel on pourra revenir plus tard et qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire d'invention petit à petit de règles du jeu et de classement des athlètes, non pas en fonction de leur déficience en tant que telle, c'est-à-dire d'un diagnostic médical, mais en fonction de leurs incapacités rapportées à une épreuve sportive donnée, c'est-à-dire dans le handicap qu'ils vivent, mais pour une situation donnée et pas en général. Et donc, on va inventer ce qu'on appelle des classifications fonctionnelles qui permettent vraiment d'entrer dans le monde sportif, c'est-à-dire de considérer finalement le désavantage qu'on a et l'égalité d'échange dans une épreuve donnée et pas en général en fonction d'un diagnostic médical.
Donc, ça veut dire qu'il y a eu aussi un vrai changement de mentalité à cette époque, Gilles Lecoq.
Alors, je vais répondre à côté, mais pas tout à fait. Parce que pour moi, par rapport à la chanson qu'on a entendue,
bravo.
La question qui me vient, c'est finalement, qui va dire bravo aux athlètes paralympiques le 9 septembre? Et je crois que l'approche historique, finalement, ça va aussi être de s'intéresser à ce que j'appelle le retour à la vie civile de ces athlètes paralympiques, c'est-à-dire quel accueil on va leur faire. Et à partir du moment où les compétitions sont passées, est-ce qu'on va toujours les reconnaître dans ce qu'ils sont? Ou est-ce qu'on va les oublier jusqu'au prochain jeu paralympique, on peut les appeler autrement. Sylvain a parlé tout à l'heure de être autrement capable. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens. Mais en tout cas, sur cet aspect historique, voilà, je m'échappe pas, mais je me permets de donner rendez-vous aux éditeurs le 9 septembre sur finalement, et si Sylvain est d'accord sur la formule, pour s'interroger sur que sont devenus les enjeux des Jeux paralympiques. Après ce qui va se passer à Paris 2024.
Benoît Hervé-Léger, il a raison de dire ça, Gilles Lecoq. C'est-à-dire qu'il y a souvent un avant et un après. Est-ce qu'on est là juste pour de la visibilité ou est-ce qu'on est là vraiment pour mettre en avant, pour promouvoir aussi des vrais compétiteurs et compétiteuses?
Écoutez, oui. Je dirais effectivement, il y a des progrès effectivement qui ont été lents. Les années 70, je crois que c'est 76 avec l'arrivée de non paralysés. Si je reprends effectivement le fil de l'histoire de Sylvain, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas cette histoire avant le lancement du dossier. 92, je crois que c'est l'intégration effectivement des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Donc comme vous voyez, c'est vrai que c'est un peu tout ça va de 20 ans en 20 ans. C'est une histoire qui est pas si simple. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilles, et c'est important de le souligner. C'est effectivement quelle sera et ça c'est une interrogation pour nos sociétés. C'est quelle sera effectivement cette postérité aussi des Jeux paralympiques de 2024, c'est-à-dire que là, on veut vraiment être inclusif jusqu'au bout et que ce soit le même événement. Il y a vraiment un discours, il y a une... et c'est éminemment politique, là encore, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que 2024, on ne dissocie pas, ou le moins possible, il y a 22 épreuves paralympiques officiellement, mais simplement, est-ce que... on sera capable après, effectivement, de reconnaître historiquement la performance comme étant une seule.
Et on va continuer d'en parler, bien sûr, tous les trois ensemble avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Si vous êtes en situation de handicap, que représentent les Jeux paralympiques? On vous accueille et on vous attend avec grand plaisir. Petite pause, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis. On parle des Jeux paralympiques avec nos trois invités et vos témoignages. Si vous avez l'habitude de regarder les JO, est-ce que vous en faites autant pour les Jeux paralympiques? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous touche aussi dans ces compétitions? Et si vous êtes en situation de handicap, dites-nous aussi ce que représentent ces Jeux pour vous. 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Sylvain Ferrez, je reviens sur l'histoire toujours du paralympisme. Donc on a évoqué ces Jeux de 1960 et puis petit à petit, après, au fil des années, se sont constituées plusieurs organisations pour représenter justement les sportifs en situation de handicap, jusqu'à un élément qui a été très important, c'est la création de l'IPC en 1989.
Oui, l'IPC est la structure idoine du CIO. Et j'allais dire, la création de l'IPC était l'une des conditions pour que les Jeux paralympiques intègrent le mouvement olympique à proprement parler et qu'il y ait des échanges entre donc l'IPC et le CIO pour avoir un cahier des charges commun, une organisation commune et pour que à partir de Séoul en 88, finalement désormais définitivement les Jeux olympiques et paralympiques soient organisés sur un même site et un même lieu avec. Alors, il faut pas dire tous les handicaps parce que tous n'y sont pas. D'abord, les sourds n'ont jamais voulu faire partie de la configuration paralympique, considérant qu'ils étaient une minorité linguistique et qu'ils n'étaient pas sous la casquette ou sous le chapeau des personnes handicapées. Et que donc, s'il y avait des systèmes de traduction et qu'on prenait en compte leur langue, finalement, le handicap n'était pas une bonne manière de les définir. Donc, ils ont, après quelques années de participation à l'IPC, claqué la porte. Il faut dire qu'ils avaient une histoire du mouvement sourd qui précédait l'histoire de 48, qui existait depuis 1924 avec leurs propres jeux, les jeux silencieux, etc., qui était une histoire autonome. Mais cette histoire autonome montre aussi que le handicap au sens de la catégorie de l'action publique, ça n'existe pas. Quand on est dans la vraie vie, dans les Jeux paralympiques, en fait, on a des gens différents qui ont des organisations différentes et être amputé, être paralysé de la colonne vertébrale ou avoir une déficience ou des incapacités sensorielles, évidemment, ça n'est pas la même chose. Et comme vous l'avez dit, chacune de ces incapacités donnait lieu à des organisations sportives, y compris internationales, qui finalement, pour la plupart, se sont regroupées pour former l'IPC et pour intégrer le CIO et arriver à ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un cahier des charges commun aujourd'hui pour l'organisation, en fait, d'un événement unique qui comprend les deux. Et puis, avec Paris 2024, on est allé un peu plus en avant, puisqu'on a un logo unique, des mascottes uniques. C'est-à-dire qu'on est allé vers une intégration de plus en plus forte des deux mouvements. Les deux mouvements, comme je l'ai dit, ayant désormais de la réciprocité dans leurs influences et se fécondant d'une certaine manière mutuellement et s'appuyant l'un sur l'autre. Quelques effets de ça, vous avez parlé des aspects de médiatisation, je ne sais pas si les gens vont regarder, mais pour qu'ils puissent regarder, il faut déjà que ça soit retransmis en direct. Les derniers Jeux, c'était pour la première fois des images sur France Télévisions en live et en direct de manière importante. Les Jeux précédents, ils étaient quasiment pas en direct. Et là, France Télévisions s'est engagée sur plus de 100 heures de direct. Donc, on pourrait faire aussi l'histoire de ce que cette intégration a permis à la visibilité médiatique. Évidemment, c'est une amélioration considérable de la possibilité d'avoir accès et de rendre visible ces manières d'être autrement capables, comme disait Gilles Lecoq.
Je reviens sur la création de l'IPC, le Comité International Paralympique, en 1989, qui est venu, Gilles Lecoq, vraiment encadrer aussi toutes ces compétitions.
Alors, encadrer et peut-être se positionner par rapport au CIO. Je ne suis pas naïf et je ne suis pas sûr que les relations entre le CIO et l'IPC soient souvent cordiales. Donc, de façon explicite, elles sont cordiales. Mais il y a quand même des enjeux qui sont à côté, que j'appellerais politiques, économiques, médiatiques. Donc, sans être trop critique par rapport à votre question, je trouve qu'il y a d'une part l'IPC qui existe, mais aussi je situerai peut-être ce qui s'est passé à Londres en 2012, où finalement, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue marketing, les Jeux paralympiques ont été vendus d'une façon remarquable, et ça a quelque part propulsé un petit peu le paralympisme. Il n'y a pas eu de suite forcément qui a été augmentée au niveau de Rio et puis de Tokyo. On peut imaginer que Paris sera l'occasion, peut-être de reprendre le flambeau. Mais derrière ce qu'on est en train de dire, pour reprendre un peu une histoire du paralympisme, je ferai peut-être aussi une histoire du marketing du paralympisme, ouais. Dans le sens où quand la Chine s'est éveillée au paralympisme, on a eu le droit à une forme de marketing politique qui s'est mis en place. Quand des nouvelles technologies sont venues en aide aux personnes qui vivent des situations de handicap, on a un marketing économique qui s'est mis en place. Et je crois que l'un des enjeux que l'on peut observer actuellement, c'est finalement au niveau de Paris, qui vont être à qui on va attribuer les performances. Est-ce qu'on va les attribuer aux para-athlètes eux-mêmes ou est-ce qu'on va les attribuer à ce que j'appellerais les technologies augmentées? Alors, voilà, c'était...
Ouais, non, mais c'est intéressant, Sylvain Ferres, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y a un vrai débat et Londres est un point de bascule là-dessus.
Ah oui, alors, 2012 moi, je suis un peu alors.
Moins, Ouais, positif sur les Jeux de Londres, parce que je pense qu'on allait très loin justement vers la mise en scène de l'hybridation. Quand on voit les podcasts de la télévision ou les affiches qui font des paralympiques un peu des héros de Marvel, vous voyez, un peu technologisés, voilà, il y avait cet univers-là.
C'est très marketé.
Qui a mis mal à l'aise, y compris le monde paralympique, au sens où les personnes vivant des situations de handicap elles-mêmes ne s'identifiaient plus à ces super-héros ou à ces hybrides ou à ces super-humains. Et d'ailleurs, le mouvement international militant du handicap est revenu à Tokyo en même moment des Jeux avec une campagne internationale qui était intitulée « We are people » pour dire « Nous ne sommes pas des super-héros ». Nous sommes des gens comme les autres, nous accédons aux pratiques sportives. Et ça, ça a été une vraie question sur les Jeux de Londres, c'est-à-dire c'est bien d'utiliser cette image à grand renfort d'imaginaire de l'hybridation, qui est une imaginaire qui fonctionne bien dans nos sociétés. On considère que depuis les années 2000, on montre surtout à la télé, non plus des fauteuils, mais des lames. Des athlètes avec des lames, avec toute la controverse, vous savez, autour de cet athlète qui s'appelle Oscar Pistorius, est-il avantagé ou pas parce qu'il a concouru dans les valides, et l'imaginaire s'est déplacé beaucoup sur le handicap physique et sur l'imaginaire de l'hybridation. Évidemment, tout le monde économique et dessous les forces idéologiques qu'on appelle post-humanistes, utilisant le paralympisme comme un laboratoire de l'ingénierie, vous voyez, de cette hybridation. Et c'est vrai que là, il y a une dimension qui peut être inquiétante pour les gens du commun, et notamment pour le discours d'héritage des Jeux paralympiques. Est-ce que l'enjeu, c'est de faire des athlètes inspirants et de représenter toute la diversité des handicaps pour que chacun se dise « je puisse faire du sport », ou est-ce que l'idée, c'est que quand les gens regardent les Jeux paralympiques, ils se disent « de toute façon, c'est pas pour moi, je ne suis pas un super-héros ». Et là, il y a vraiment un petit décalage qui se crée et qui a donné lieu à un retour un petit peu en arrière avec Tokyo et Rio entre-temps. Et il va falloir voir comment sont médiatisés les Jeux de Paris. Les heures d'antenne, c'est bien, c'est un premier pas. Après, il faut voir quel est le discours des journalistes? Quelle est la connaissance des Jeux? Est-ce qu'ils sont capables de parler précisément des pratiques? Est-ce qu'ils alimentent des imaginaires un peu surannés, comme c'est parfois le cas, un peu pleurnichants sur le handicap, ce qui énerve évidemment et éminemment les gens qui sont personnes de situation de handicap, qui n'ont pas envie de revoir des discours de pitié ou alors est-ce qu'on valorise et on en profite pour développer ces imaginaires des super-héros, etc., dans lequel les gens ne se reconnaissent pas non plus? Ou est-ce que les journalistes et les gens qui parlent sur les images et qui produisent les images sont formés, vous voyez, à trouver la bonne formule pour parler en fait de la vie des gens et la capacité d'être autrement capable dans des épreuves sportives, j'allais dire, comme les autres.
Il y a une forme d'éducation finalement aussi à avoir, à transmettre, former les journalistes tout comme aussi le public, et c'est vrai que ça peut permettre vraiment tout ça. Benoît Hervieux-Léger, donc peut-être sur le marketing autour de l'édition londonienne de 2012, on va pas y revenir, mais c'était très intéressant de partager cette analyse. Par contre, on se rend compte quand même à partir de 2012 que l'inclusion devient un objectif vraiment incontournable.
Oui, non, mais ça fait partie maintenant, ça fait partie des obligations statutaires de l'olympisme, c'est-à-dire qu'effectivement, l'olympique, l'héritage olympique et paralympique il doit y avoir un partage de cet héritage dans les deux domaines, et c'est exigé des villes et des pays qui accueillent les Jeux. Ça, effectivement. Alors, après, si vous voulez, toute la question, et Sylvain a prononcé le mot, la question de l'héritage. Bon, comme vous le savez, l'olympisme et le paralympisme, bon, c'est un héritage matériel, c'est un héritage immatériel. Bon, l'héritage immatériel, par définition, il est beaucoup plus difficile à définir, mais c'est vrai que c'est une très très grande question, très profonde aussi, posée à nos sociétés sur, effectivement, le regard, sur la conception, sur... Alors, l'idée de performance aussi, parce qu'on est quand même dans des sociétés qui ont survalorisé effectivement la performance individuelle, parfois au détriment d'ailleurs d'autres valeurs. Donc ça peut être intéressant effectivement de se reposer la question à travers effectivement d'autres, des athlètes qui sont soit paralysés, soit déficients visuels, soit en situation de handicap mental, etc. Voilà comment aussi on redéfinit le rapport à la performance, je veux dire, à l'aune de ça. Et ça, c'est effectivement, mais ça, c'est, je pense que bon, l'héritage immatériel, c'est aussi effectivement, j'allais dire, là, c'est presque un héritage spirituel et philosophique qui s'attestera dans le temps. Sur l'héritage matériel, je vais essayer d'aller vite, c'est que, bon, bien sûr, bon, comme vous le savez, l'un des symboles, enfin, théoriquement, qui doit en être un, c'est effectivement, on en parlait lors de la première heure, bon, c'est ce pôle de référence inclusif sportif métropolitain, donc le fameux prisme qui doit être installé
à Bobigny,
le hub sportif de Bobigny. Bon, d'autre part, effectivement, ce qui est à souhaiter, c'est que même hors du domaine sportif, cet héritage matériel des Jeux olympiques et paralympiques repose effectivement aussi la question de l'accessibilité, l'accessibilité de nos infrastructures, et notamment urbaines, aux personnes en situation de handicap, sachant qu'à cet égard, parmi les pays occidentaux, la France est très très loin du compte par rapport à d'autres pays.
Et pourtant, Tony Estanguet, qui organise les JO 2024, pour lui, c'est une priorité, justement, de promouvoir cette accessibilité et de faire en sorte que ces Jeux soient accessibles, Sylvain Ferrez.
Il y a des difficultés sur la question de l'accessibilité et j'allais dire que la voilure a été resserrée un petit peu au fur et à mesure du discours. Évidemment, au moment de la candidature, on est très fort sur l'inclusion pour une raison simple, et je voulais remettre les enjeux politiques autour de la table. Vous savez aujourd'hui que les populations ne veulent pas des Jeux olympiques. Plus aucune ville ne veut accueillir les Jeux olympiques, et que le marketing du CIO en lien avec les villes hôtes, c'est de vendre un discours que les Jeux politiques sont un levier pour les politiques publiques, parce qu'ils savent que l'ensemble des populations des territoires hôtes vont dire est-ce que ces Jeux vont nous servir, et la question de la transition écologique et de l'inclusion et du handicap deviennent majeures dans ces questions-là. Ces Jeux ne peuvent plus s'organiser sans, d'une certaine manière, contribuer à ce qui sont devenus des valeurs cardinales d'un point de vue social et des questions de société auxquelles personne n'échappe. Sinon, c'est toutes les associations militantes de personnes handicapées, c'est toutes les associations écologistes et la jeunesse qui se retournent vers les pouvoirs publics et qui disent à quoi servent les Jeux. Donc là, il y a une transition, j'allais dire, qui se fait petit à petit. Après, la voilure a été réduite. Pourquoi ? Parce que les nouveaux équipements qui vont être construits et le prisme en T1 sont formidables. Mais le défi, c'est quoi ? C'est la chaîne des transports. C'est l'ensemble de la ville. C'est les politiques publiques. Et ça, c'est extrêmement coûteux. Et évidemment, les Jeux n'ont pas pu prendre ça sur leurs épaules. Et au fur et à mesure, on a vu qu'on est venu vers des modèles plutôt de créer des démonstrateurs. Et je crois que le prisme est un bon démonstrateur si on le prend comme un démonstrateur. Mais il va pas régler la question de l'accessibilité de tous les gymnases et de tous les lieux en France. Par contre, il peut être un pôle de référence, un endroit où les gens viennent se faire former, viennent voir ce qui se fait des idées pour, j'allais dire, créer de la ressource et régler ce problème-là qui est en réalité est extrêmement coûteux et pour lequel l'État a pris beaucoup de retard. Je rappelle qu'on a une loi sur ces questions-là qui date de 2005 et qui, en fait, n'est pas mise en application aujourd'hui même. Et les Jeux ont été une petite goutte là-dessus et déjà suscitent des déceptions parce que effectivement on est passé de on va mettre les transports en accessibilité à bon on va essayer de faire un démonstrateur et qu'il y ait une ou deux stations de métro qui fonctionnent et qui soient un exemple pour, mais ce n'est pas vrai que demain il sera plus facile pour une personne d'aller jusqu'au prisme avec des transports en accessibilité à n'importe quel endroit qu'elle soit d'Île-de-France, parce que ça c'est un défi extrêmement important sur lequel il faut investir sur la durée. Et on a beaucoup de retard en France sur cette question-là. Mmh. Voilà. Et là, il y a vraiment un problème de politique publique générale à long terme. Paris 2024 a fait pour le mieux pour le bâti, j'allais dire, qui a été fait ad hoc pour les JO. Et ça, c'est bien. Et puis, a fait quelques démonstrateurs. Attention aussi, moi, je suis très attaché à ce que le prisme deviennent aussi quelque chose qui gère l'accessibilité, pas que pour le haut niveau, et qu'on fasse pas que des choses pour le haut niveau. Le haut niveau, c'est important, mais si c'est que le haut niveau et que le handicap physique, ce qui est souvent un peu le réflexe, hein, parce que c'est le plus simple, parce que ça vend de la technologie, parce qu'il y a du modèle économique derrière, ben ça laisse beaucoup de gens sur le côté, sur la route, pourtant qui vivent parfois davantage de situations de handicap que le handicap physique, parce que dans nos sociétés numérisées, je peux vous dire que le passage au numérique handicape beaucoup plus les gens qui ont des situations, par exemple, de handicap psychique, qui savent pas lire, qui peuvent pas écrire, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'accompagnement humain et de guichets, qui se retrouvent face à des machines et qui sont beaucoup plus handicapés aujourd'hui qu'il y a 20 ans, alors que les personnes qui sont amputées, par exemple, avec les progrès technologiques, en réalité, vivent de moins en moins de situations de handicap. Je veux pas dire qu'elles en vivent plus, mais elles en vivent de moins en moins. Voilà, c'est ça la réalité.
Gilles Lecoq, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce que Sylvain dit et Benoît?
Alors, je vais revenir peut-être sur une expérience de l'été dernier. Il y avait les championnats du monde par athlétique au stade Charletti. Et j'ai trouvé que la façon dont les journalistes, hein, je ne mets pas RCF en avant, mais les journalistes francophones avaient fait grosso modo, avaient donné le message suivant. Les Français ont gagné si peu de médailles, c'est qu'à la limite, ils n'avaient pas le droit de participer à la compétition. C'est-à-dire ce qu'on a retenu de ces championnats paralympiques, c'est le nombre de médailles, le nombre de finalistes. Et par rapport à ça, c'est un clin d'œil que je fais à la radio RCF, hein, si vous me le permettez, mais c'est de se dire finalement, durant les Jeux paralympiques, quels sont les angles originaux qui vont vous intéresser, vous, radio RCF, pour qu'on puisse peut-être échanger ensemble, pour sortir des clichés, hein, que Sylvain et Benoît ont mis en avant. C'était un peu mon premier... Ma première réaction, puis ma deuxième réaction, c'était à nouveau de parler du 9 septembre, dans le sens où l'un des enjeux, ça va être si des personnes qui vivent des situations de handicap souhaitent intégrer des clubs, hein, et ça a déjà été dit tout à l'heure, c'est comment ces personnes-là
comment
vont être accueillies,
ouais.
Comment on les intègre, parce que si le récit, on va dire, mythique, hein, du paralympisme, grâce aux journalistes et d'autres personnes, a été fait. On risque d'avoir des personnes qui ont envie, heureusement, de pratiquer. Et là, va se poser une question fondamentale de tous les éducateurs, c'est il va falloir se retrousser les manches le 9 septembre, c'est-à-dire que c'est pas quand les Jeux paralympiques sont terminés que tout est terminé, c'est là où ça commence. Hein, et là, on est dans un héritage qui est très proche. Le 9 septembre, c'est demain, et donc on peut considérer qu'il y a certains clubs qui vont s'arracher les cheveux quand ils vont voir certaines personnes revendiquer, hein, à juste titre, le droit de pratiquer un sport, et de voir comment on va pouvoir ensemble, hein, je reprends ce terme ensemble, peut-être accueillir, hein, ces personnes.
Benoît Hervé-Léger,
la question, oui.
On est prêt, mais sans l'être.
Oui, on est prêt, mais sans l'aide tout à fait. Et en effet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra sortir? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir sortir à la fois d'une espèce de discours pathologisant, malgré lui, sur le thème quel courage, quelle abnégation, c'est extraordinaire, etc. Bon, je veux dire, qu'ils tiennent compte d'une certaine réalité, qui soit capable effectivement, parce que c'est ça aussi l'intérêt de ces Jeux paralympiques, et là-dessus on a raison, Gilles, Sylvain ont raison d'être prudent et circonspect là-dessus, c'est que effectivement quel héritage, mais vraiment quel héritage durable, et pas seulement d'ailleurs dans ce qui ressort du purement sportif, va rester effectivement de ces JO 2024. Effectivement, le prisme, on peut trouver ça formidable. Est-ce que pour autant, c'est vrai que vous regardez le métro parisien, vous regardez les bus parisiens, il y en a encore, hein, des bus avec une plateforme mobile qui permet à un fauteuil roulant de passer, etc. Est-ce que la mobilité des personnes handicapées, qui sont pas des athlètes, est-ce qu'elle va progresser aussi grâce aux jeux? C'est-à-dire que l'héritage, c'est est-ce que les jeux sont aussi capables d'apporter effectivement à un domaine autre que sportif? C'est bon, là on parle d'interaction, justement on y est, et a fortiori effectivement dans le domaine du handicap.
Il faudrait qu'il y ait un renversement, Sylvain Ferrez.
Oui, je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui sont faites. Hein. Par exemple, il y a 3000 clubs para-accueillants qui ont été formés en articulation avec le CPSF Paris 2024. Donc, cette préoccupation, elle y est. C'est pas simple, hein, parce que quand il y a des gens qui demandent à pratiquer, ben, faut que les clubs puissent les accueillir et les compétences pour. Il faut aussi, et là, le problème des transports est important, que les gens puissent arriver au club. Marie-Amélie Lefur, la présidente du CPSF, dit souvent que dans leurs enquêtes, c'est... entre 50 et 80 kilomètres à faire pour une personne vivant des situations de handicap pour accéder à un club qui l'accueille. Et je rajoute, ces kilomètres, ils veulent rien dire, parce qu'on peut être à 1 kilomètre, avoir une déficience visuelle et ne pas pouvoir accéder au club parce qu'il n'y a pas les systèmes qui sont faits pour pouvoir se déplacer. Donc vous voyez que c'est un défi extrêmement important qui a la question de la capacité à accueillir des clubs par accueillants, etc., qui a les prises en charge, mais que par exemple la question des transports est centrale. C'est-à-dire que si dans la chaîne des transports, il y a à un moment donné une rupture, eh ben les gens peuvent pas y aller. Et effectivement, ils vont voir les Jeux, ils vont être inspirés parce qu'on les aura médiatisés à peu près correctement, ils se sentiront concernés, ils se diront « le sport, c'est pour moi ». Et en même temps, ils ne trouveront pas d'opportunités de pratique en face pour pouvoir aller pratiquer. Et là, on va se retrouver dans une situation qui peut s'inverser, c'est-à-dire où les gens vont dire « vous voyez, on nous a dit que c'était pour nous, en réalité, ça l'est pas ». Parce que ces problèmes-là sont complexes et parce qu'on aurait dû en fait commencer à y travailler il y a 4-5 ans. En tout cas, nous, les chercheurs en sciences sociales, on le dit, les collègues travaillent sur le handicap et travaillent sur le sport depuis des années, ils savent la complexité de ces problèmes-là.
J'aimerais qu'on écoute Françoise au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous. Je suis contente qu'on fasse la promotion sportive des personnes handicapées. Mais d'un autre côté, j'ai été estomaquée à une émission à la télé de grande écoute avec Léa Salamé le samedi soir. Oui. À quelle époque, il y a un humoriste qui s'est moqué des personnes handicapées, notamment d'un politique, maintenant il n'y est plus, Monsieur Abad.
Oui.
Et il insistait qu'il fallait quelqu'un pour lui remonter le pantalon. Enfin, moi, je ne suis pas ça. J'ai un fils qui est sur un fauteuil roulant, mais c'est inadmissible. Alors, d'un côté, bon, on fait un peu du greenwashing. On montre les personnes paralysées sur un plan sportif, mais après, d'un autre côté, il faut que les mentalités changent.
Merci beaucoup, Françoise, et ça vient conclure vraiment tout ce qu'on a dit. Alors, sur l'humoriste, ça reste de l'humour, donc je ne sais pas si il faut être pour ou contre, et je pense qu'on va pas forcément juger ses propos, mais ce qu'elle voulait nous dire un peu, Françoise, c'est que finalement, on leur passe la pommade, mais dans les émissions télévisées, parfois, c'est tout un autre... une autre dynamique, Sylvain Ferrez. Si on peut résumer tout ce que vous avez dit tous les trois ce matin, c'est on avance, c'est une évidence, mais c'est pas si simple que ça. Il faut aller beaucoup plus loin dans la sensibilisation, dans l'éducation également.
Ah oui, il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que les Jeux paralympiques sont une formidable vitrine ou un formidable moment pour se rendre compte de ce qu'est le handicap, c'est-à-dire un désavantage social lié à des incapacités. Les gens parlent du handicap en général, mais ne connaissent pas les incapacités des gens. Ils ne savent pas ce que c'est un infirme moteur cérébral. Ils ne savent pas ce que vivent un amputé. Ils ont aucune idée du type de désavantage, de contraintes qu'ont les gens dans la vie de tous les jours. Et très souvent, il suffit simplement qu'ils sachent ce qu'est la déficience intellectuelle, ce que peut faire quelqu'un et ce que peut pas faire quelqu'un, pour que cette personne devienne fonctionnelle, puisse participer socialement à toutes les activités de la vie sociale. Je rappelle aussi que cette question nous touche d'autant plus que nous sommes tous des personnes vieillissantes en puissance et que nous allons tous être confrontés à une baisse d'autonomie, à des pertes de capacités, et que donc, ma foi, adapter ces environnements, reconnaître les capacités des uns et des autres et essayer de maintenir leur participation sociale, y compris dans la performance, dans certains domaines où ils sont encore capables de l'être, j'allais dire quelque chose qui devrait être une évidence pour chacun d'entre nous et un souhait pour chacun d'entre nous.
Allez, je vois que l'heure tourne, il est 10h55 et comme tous les mardis, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur. Le service civique existe depuis plus de 10 ans en France, répondant aux souhaits des associations. Le gouvernement a annoncé fin janvier vouloir proposer à 50 000 jeunes des missions touchant à l'environnement d'ici 2027. Et pour en parler, on reçoit Julien Deséchos, directeur de publication du Média Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi consiste le service civique ?
Tout à fait, Melchior. Ce dispositif, créé en 2010, propose un encouragement à la citoyenneté aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui cherchent à s'engager pour 6 à 12 mois en France, à l'étranger, en faveur d'un projet collectif d'intérêt général. Les missions proposées, notamment via la plateforme servicecivique.gouv.fr, vont de la solidarité au sport en passant par l'éducation, l'environnement ou encore le secteur culturel. La mission d'au moins 24 heures par semaine est indemnisée par l'État à hauteur de 620 euros par mois. Un tuteur de l'organisme suit chaque jeune engagé, le conseille tout au long de sa mission. Et ce service civique comprend également une formation civique et citoyenne pour mieux comprendre ce que signifie vivre en société. Tout un programme donc, avec aussi des focus sur la lutte contre les discriminations, l'égalité hommes-femmes, la démocratie, le développement durable, mais aussi une formation au premier secours. À ce jour, seuls 7% des quelques 130 000 services civiques accueillis par des associations ou collectivités sont consacrés à l'environnement.
Et c'est pourquoi fin janvier, le Premier ministre Gabriel Attal a souligné l'importance de poursuivre l'effort en faveur du service civique en imaginant par exemple, Julien, un service civique écologique.
Cette annonce du discours de politique générale du Premier ministre fait en effet écho à une revendication d'une quinzaine d'associations de protection de la nature en avril dernier, regroupées au sein du collectif des associations pour le service civique écologique. Parmi celles-ci, la LPO, France Nature Environnement, Agir pour le Climat ou encore Scouts et Guides de France, qui avaient signé une tribune demandant aux pouvoirs publics et aux entreprises de développer davantage ce dispositif. L'objectif fixé, 50 000 services civiques écologiques proposés aux jeunes d'ici 2027. Ce chiffre fait écho à la démarche engagée par l'Agence du service civique depuis mars 2022 à travers le programme Jeunes et Nature dédié à la protection de la biodiversité. Ce dernier vise à développer l'offre de missions en faveur de la nature, de la biodiversité. Et selon la dernière enquête de l'agence, 77% des jeunes pensent que c'est un bon moyen pour eux de s'engager en faveur de l'environnement.
Et rapidement, Julien, comment ont réagi les associations de protection de la nature à cette annonce ?
Les associations se sont naturellement réjouies des annonces du Premier ministre tout en demeurant vigilantes à ce que les moyens opérationnels comme financiers, notamment à l'heure des coupes budgétaires, soient mobilisés pour concrétiser efficacement cette ambition. Elles ont aussi complété leur enthousiasme de recommandations. Notons par exemple le déploiement dans les territoires des pôles d'appui au développement du service civique écologique pour accompagner les associations et les collectivités dans l'accueil des jeunes engagés.
Et c'était important d'en parler. Merci beaucoup Julien Deséchos, directeur de publication du Média Sans Transition, dont on peut retrouver beaucoup plus d'informations sur votre site internet. Allez, on arrive à la fin de Je pense donc j'agis. Grand merci Sylvain Ferrez, Gilles Lecoq, Benoît Hervé-Léger d'avoir été avec nous dans cette émission. Sylvain Ferrez, sociologue et spécialiste des questions de paralympisme au laboratoire santé, éducation et situation de handicap à l'université de Montpellier. Gilles Lecoq, merci. Professeur de psychologie, président de la Société francophone de philosophie du sport et vice-président du comité français Pierre de Coubertin. Merci Benoît Hervé-Léger, encore une fois, on ne se quitte plus. On se retrouvera prochainement avec grand plaisir, toujours pour parler de la revue Projet. En attendant, rendez-vous sur votre site internet revue-projet.org, si je ne me trompe pas sur l'adresse.
.com. Revue.com.
Voilà, pour aller lire ce très beau dossier Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. Merci à tous les trois. Merci à l'équipe de Dijon, de Radio Notre-Dame, à Antoine, à Catherine également à la réalisation. On se retrouve demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis avec Madeleine Vatel. Bonne journée à tous.